par la foi, vous le voulez. Alléluia. Je vais juste enlever ça parce que j'ai peur de tomber. En Luc 2, 1 à 7, vous savez, on est le 24. Demain, c'est Noël. Ce soir, il y en a qui ont des réveillons, des choses semblables. Donc, on veut que Dieu puisse nous aider et être des témoignages durant ces temps. Oui? Oui?
Mais j'aurais besoin de prière parce que j'ai 3 enfants, puis j'en ai 2 qui se sont altercations vendredi soir. Et celle-là, ça vient tout de compromettre la fête de Noël ce soir. Ouais. Et c'est, comment je peux dire ça, c'est grave, là. Ça peut me mettre en péril que je ne vois plus mes petits-enfants.
Alléluia. Seigneur, tu es un Dieu de miracles. On a entendu tantôt, Seigneur, tu fais des merveilles. Tu fais des choses même au-delà de tout ce qu'on pourrait te demander ou penser. Et tu vois cette situation pour notre soeur, Seigneur, dans sa famille, des enfants ici, des conflits. Et Seigneur, tu es le Dieu de la réconciliation. Tu réconcilies, Seigneur. Alléluia. Et Seigneur, on te prie pour un miracle de réconciliation envers ces deux enfants, Seigneur. Oh, que la paix s'installe à nouveau, Seigneur, et qu'il n'y ait pas de séquelles, de fait que ma sœur sera empêchée de voir ses petits-enfants. Seigneur, on te prie, Seigneur, tu es le prince de la paix, et que tu puisses descendre dans cette famille, et que tu agisses puissamment, et que ce soit même un témoignage, et qu'au bout, Seigneur, un jour, Seigneur, ses enfants se réconcilient aussi avec toi. Alléluia! Alléluia! Oh, on te le demande en ton nom, Jésus. Puis on te remercie à l'avance pour ce miracle. Et que ce soit un joyeux Noël. De belles fêtes en toi, Seigneur, on te le demande, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. En Luc 2, verset 1 à 7. Seigneur, on te remercie pour ta présence, ta parole. Seigneur, on a besoin de toi ce matin. Tu as dit de s'approcher de toi. Oh, avec une foi sincère, le cœur purifié aussi, Seigneur. Oh, Éternel, on n'entre pas dans ta présence sans le sang, sans être couvert par ton sang et sans être purifié nos cœurs. Et Seigneur, on veut s'approcher avec un cœur pur. Et Seigneur, s'il y a quoi que ce soit dans nos vies ce matin, qui serait un empêchement à recevoir pleinement ta parole, Seigneur, on te demande que tu puisses purifier nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Et merci pour ton sang. Merci que tu ouvres nos esprits. Merci que tu nous donnes un esprit de révélation et qu'on peut recevoir de toi ce matin. Amen. Alléluia. Et tout le peuple dit Alléluia. Amen. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son premier fils, Elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. On connaît cette histoire, dans la parole de Dieu, la naissance de Jésus, tout ça. Et on sait qu'on est justement dans ce temps, période de l'année où les gens pensent. C'est le temps des fêtes. On sait que le temps des fêtes, les gens pensent beaucoup plus cadeaux parfois, plus réunions de famille, plus parties, plus ça devenu plus davantage commercial. La fête de Noël, hein? On va dans les centres d'achat, c'est plein de gens. Et les gens courent ici et là, ils veulent s'acheter des cadeaux et tout ça. Donc, c'est plus tellement religieux, si on veut. Les gens pensent pas trop. Mais ça arrive encore. Il y a des personnes qui ont un aspect religieux à travers ça et qui vont voir Marie avec l'enfant et tout ça. Certains vont aller encore peut-être, je ne sais pas, ça existe probablement encore la messe de minuit. Il y a des gens qui vont aller et qui ont un certain sens spirituel à travers ça. Mais nous, nous savons que ça nous parle de la venue du Sauveur dans ce monde. Amen. Et lorsqu'on pense à la naissance de Jésus, on pense aux mages, on pense aux bergers, on pense à Marie et l'enfant dans la crèche et tout ça. Sauf qu'il y a un personnage souvent qu'on oublie et qui est déterminant dans la venue de Jésus dans ce monde. Et ce personnage, c'est Joseph. La Bible dit en Matthieu 1, 19 que Joseph était un homme de bien. Et le mot grec ici veut dire un homme juste, un homme craignant Dieu, un homme qui voulait observer les commandements de Dieu, un homme qui était vertueux et approuvé de Dieu. Joseph était un homme de foi, un homme qui aimait le Seigneur et qui cherchait à faire la volonté de Dieu avant toute chose. Il était de la lignée de David. Il avait un cœur selon le cœur de Dieu. Et ce n'est pas le fruit du hasard. Si Jésus a choisi Joseph pour venir et être dans ce foyer adoptif. Et Joseph, cet homme qui était fiancé à Marie, apprit que Marie est enceinte. Donc ce fut pour lui sûrement une grande déception d'apprendre que Marie est enceinte, qu'elle a couché avec quelqu'un d'autre. Dans son esprit, tout ça, il n'y a personne qui tombe enceinte comme ça s'il n'y a pas eu une relation entre un homme et une femme. Jamais on a entendu avant qu'il y a eu un enfant qui est né par opération du Saint-Esprit. Donc, Joseph est déçu sûrement face à sa fiancée, Marie, qui voulait marier, tout ça, et fonder une famille, préparatif du mariage et tout ça. Il apprend qu'elle est enceinte. Mais cet homme est un homme de bien. Il décide de ne pas la diffamer. Il décide de ne pas l'exposer publiquement face aux gens et tout ça, d'y créer encore plus une opprobre et tout ça. Il décide de rompre secrètement avec Marie. Joseph est un homme de bien. Joseph ne cherche pas à se venger. Joseph ne cherche pas à s'en prendre et à dire, gars, je vais te faire payer qu'est-ce que tu as fait là. Parce qu'il y avait le droit, selon la loi, la Bible dit ceci en Deutéronome, si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez. C'était sérieux. Il avait le droit de la lapider. Comme Jésus, lorsqu'on lui a amené une femme prise en flagrant délit d'adultère, ils ont dit, gars, il était tout là, prêt à la lapider, tout ça. Mais on sait que Jésus a dit que celui qui n'a pas péché lui lance la première pierre. Et Joseph est de ce type-là. Il ne sait pas encore que c'est par l'opération du Saint-Esprit. Il pense réellement qu'il a couché avec un autre homme. Il a la possibilité de le lapider ou de rendre un certain opprobre sur sa vie. Mais la miséricorde triomphe du jugement. Et cet homme, un homme de bien, décide de rompre secrètement avec elle pour pas causer de problème et tout cela. Ce n'est pas le fruit du hasard si Jésus a choisi Joseph comme père adoptif. Ce n'est pas le fruit du hasard. Nous, on choisit pas nos parents. On vient dans ce monde, on a les parents qu'on a. Mais Dieu, c'est différent. Dieu a décidé, il a choisi sa famille. Dieu a choisi là où il allait demeurer. Dieu a choisi le lieu qu'il allait naître. Dieu a choisi le temps que ces choses arriveraient. Dieu a choisi les villes où ils habiteraient. Dieu a choisi quand il débuterait sa mission. Et Dieu a choisi quand il allait mourir et tout ça. Parce que personne ne lui enlève la vie. C'est qu'il l'a offert lui-même. Il contrôle toutes choses. Puis il a dit, je viens dans ce monde sauver l'homme, puis je choisis un homme selon mon cœur. Je choisis Joseph. Parce que je sais que Joseph fera tout ce que je vais lui demander. que Joseph va être obéissant jusqu'au bout, que Joseph va faire ce qui va lui être révélé au fur et à mesure. Joseph est un homme de bien. Joseph est un homme qui craint Dieu. Alléluia. Tout ça a été prophétisé et ce n'est pas le fruit du hasard. Et Joseph est devenu un outil entre les mains de Dieu pour ce que Jésus allait accomplir dans ce monde. Amen. Alléluia. Et naturellement, il a obéi parce que Dieu s'est révélé à lui par des anges. Des anges qui ont parlé à travers des anges. Puis il dit, Joseph, son époux, qui était un homme de bien en Matthieu 1, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Là, il a la révélation. Là, il reçoit de Dieu Saint-Esprit. Mais jamais on a entendu dire qu'un enfant est né par opération du Saint-Esprit. Même les gens dans ce monde se moquent de ça. Pas possible qu'une personne a donné naissance à un enfant qui était conçu par le Saint-Esprit et qui n'a pas eu la semence de l'homme. Et il reçoit durant un songe, pendant qu'il dort, une révélation d'un ange qui dit, prends là, car c'est par le Saint-Esprit. Et Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange lui dit, fit ce que l'ange lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui. N'est-ce pas un homme obéissant? Jamais il a entendu dire. Mais suite à un songe, une révélation de Dieu, il est prêt de prendre Marie comme épouse. Peu importe ce que les gens vont dire, peu importe les candidats, peu importe ce que les autres personnes vont dire autour, il est prêt, lui, à prendre Marie comme épouse. Il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Même le nom a été dit. Là, je lui ai dit, tu vas l'appeler Jésus. Il l'appelle Jésus. Ben oui, Dieu me le demande. Il ne la connut point. Il ne coucha pas avec elle jusqu'à ce qu'elle ait enfanté Jésus. Alléluia. Un homme selon le cœur de Dieu. Il n'a pas voulu sauver les apparences. Il n'a pas dit, Marie, je vais coucher avec toi, ça va paraître que c'est mon enfant. Il n'a pas voulu, à cause des candidats, ce que les gens diraient, faire autrement qu'est-ce que Dieu avait dit. Amen. Voyez-vous, ce n'est pas le fruit du hasard si Jésus a décidé de faire son entrée dans cette famille. Joseph est un homme de bien. Peu importe ce que les gens vont dire. Peu importe ce que les gens peuvent rapporter, tout ça, je vais obéir au Seigneur. Amen. Dieu avait besoin d'un tel homme. Dieu avait besoin d'un tel homme. Dieu avait besoin de quelqu'un qui était obéissant. Dieu avait quelqu'un qui était prêt d'agir de la lignée de David. Peu importe s'il ne saisit pas tout. Joseph ne saisit pas tout. Qu'est-ce que l'enfant va arriver? Tout ce qui va se passer, tout ce qui se passe autour, il n'y a pas de révélation de ça. Au fur et à mesure que Dieu se révèle à lui, il obéit. Parce qu'il est comme ça. C'est un homme de bien. Et Dieu a dit, c'est lui, je veux. C'est lui, parce que je sais que quand je vais lui demander quelque chose, il va le faire. Et peu importe ce que les gens disent, et peu importe ce que l'entourage dit, et peu importe ce que les familles disent, et peu importe ce que ses amis vont dire, et je vais le faire. La volonté de Dieu. Et nous, bien souvent, on s'arrête à ce que le monde dit, à ce que les gens disent pour marcher, pour ne pas leur déplaire. Puis des fois, on met la parole de Dieu de côté. Ben, on ne veut pas frustrer personne. On est dans le temps des fêtes. Ben, si je ne prends pas un verre avec eux et tout ça, regarde, ils vont penser qu'on est différent. Ils ne feraient pas qu'on pense qu'on est différent. Hein? On est pareil. Donc, à ce moment-là, regarde, je suis prêt, durant le temps des fêtes, de mettre la parole de Dieu de côté parce que je veux pas leur déplaire, puis ils vont faire toutes sortes de jeux, puis je suis prêt à jouer à ces jeux-là, même si c'est pas de Dieu, et je suis prêt à faire certaines choses parce que c'est le temps des fêtes, puis je veux pas déplaire aux autres. On fait attention, quand dira-t-on? Joseph n'était pas comme ça. Joseph est un homme de bien. peu importe ce que les gens disent. Il est différent. Il est différent. Et nous sommes différents. Amen? Nous sommes différents. Nous faisons la différence. Alléluia! Dans ce monde, on n'est pas là pour faire comme le monde fait, mais on est là pour faire la différence. Et Dieu avait un itinéraire précis pour Joseph et Marie, et parce qu'ils sont obéissants, ils vont faire ce que Dieu dit. Il va se révéler à eux et il va agir tout simplement. Là où tu iras, j'irai. Là où tu demeureras, je demeurerai. Ruth a fait partie de la lignée hein, de Jésus, tout ça, comme Joseph. Ruth a engendré Obed, Obed a engendré Isaïe, Isaïe a engendré David. Donc, c'est de la même généalogie. Ruth, c'est la femme qui a dit, c'est l'ami de Dieu, qui a dit, « Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. » Et il est de cette lignée, Joseph aussi. Peu importe ce que tu m'envoies, tout ça, je le fais. Et sa première destination a été Bethléem. On a ordonné un recensement, tout ça. Et on devait aller au temps de César, aller dans sa ville d'origine. Et pour lui, c'était Bethléem. Et de se rendre là et de se faire recenser. Et un recensement aussi, c'est important pour connaître qui fait partie du peuple, qui est un étranger, puis toutes sortes de choses qu'un recensement apporte. Le nombre et tout ça. J'ai été responsable d'un recensement dans le temps au Canada. Puis si tu ne fais pas partie du recensement, tu n'acceptes pas, tu as une amende. Tu es obligé de faire partie pour les statistiques et tout ce que ça demande au Canada et tout ça à travers. Et dans ce temps-là, c'est la même chose. Ils ordonnent un recensement. Tout le monde doit le faire. Et Joseph et Marie doivent parcourir environ 160 kilomètres. À dos d'âne, probablement. Et à travers des contrées, des montagnes, des choses abruptes. Et elle est sur le point d'accoucher. Joseph et Marie vont faire cette distance, ça prend sûrement quelques jours, sinon quelques semaines, à parcourir cette distance pour aller se faire inscrire. Joseph est prêt de faire cela et d'emmener Marie comme ça pour se faire inscrire pour ce recensement. Joseph est prêt de se soumettre à la loi des hommes. Joseph est prêt de se soumettre, ça ne vient pas de Dieu là. C'est pas Dieu qui a dit « va à Bethléem ». C'est pas Dieu qui a ordonné le recensement. C'est César Auguste. C'est un homme. Imaginez Joseph et Marie, ils sont chez eux, à Nazareth, et tout ça, et elle est sur le point d'accoucher. Ben écoute, le recensement, hein? On va attendre qu'elle aille accoucher, elle va te faire 160 kilomètres, environ tout ça. Non! Joseph a décidé, a fait, d'aller de se rendre là. Parce que rien n'est en dehors du contrôle de Dieu. Amen? Parce que dans le timing de Dieu, c'est à Bethléem que ça va se passer. Donc, ça a pris un recensement afin qu'il puisse se rendre à Bethléem, et sachant que Joseph est un homme obéissant, qu'il allait suivre soit les lois religieuses ou les lois gouvernementales, la loi de Dieu, il va obéir et suivre. Il se rend là, probablement avec une certaine incompréhension, pourquoi ça arrive dans ce temps-ci, pourquoi on doit aller s'inscrire si loin, pourquoi ma femme va accoucher, oh, me semble, tout n'est pas dans ce que j'aimerais. Mais cet homme est un homme selon le cœur de Dieu. Et sachant que Joseph allait obéir et que Joseph allait se faire inscrire, c'était aussi dans le plan de Dieu, parce que c'est à Bethléem que ça va se passer. Et c'est dans le timing de Dieu que ça arrive comme ça. Amen? Alléluia. On voit que Joseph n'a pas été contre. Vous savez, nous, chrétiens, des fois, on pense que parce qu'on obéit au Seigneur, on n'est pas tenu d'obéir à la loi humaine, hein? À la loi des hommes, hein? On se dit, regarde, écoute, moi j'obéis au Seigneur seulement. Ça, c'est une mauvaise pensée de penser que j'obéis au Seigneur seulement. Parce que si tu obéis au Seigneur, tu vas obéir aussi aux autorités ici-bas. Amen? Tu vas obéir, parce que la Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures qui n'a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Oh, oh! Oh, oh! Oh! C'est un tof, celle-là. Un tof! Il n'y a aucune autorité, aucune,
non chrétienne même. Il n'y a aucune autorité qui ne vienne de Dieu. Toute autorité a été, existe et a été instituée de Dieu. Même César Auguste est une autorité. Dieu avait instauré l'autorité. Ça fait partie, ça vient de Dieu. Donc Joseph, c'est un obéissant. Un obéissant, même si ça peut sembler pénible, même si ça peut sembler difficile, même si des fois les autorités sont sévères et tout ça, il faut obéir pareil. 1 Pierre 2,16, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Avez-vous des boss? Avez-vous des patrons? Y a-t-il des gens qui ont des patrons ici? Oui? Ils sont-tu bons et doux? D'un caractère difficile. Mais même s'il serait d'un caractère difficile, tu dois te soumettre. Tu dois te soumettre à cause de Dieu. Justement parce que tu te mets à Dieu. Ne te sers pas de la parole de Dieu pour désobéir à la parole de Dieu. Ne te sers pas de la parole de Dieu pour désobéir à la parole de Dieu. Disant que moi, j'obéis à Dieu, mais j'obéis pas aux hommes. Tu vas contre Dieu. Et Joseph est un homme que pour lui, c'est correct. C'est difficile. Il y a tout un chemin à faire. Mais ça nous est demandé. On va le faire. On comprend pas trop. Mais Dieu a dit, c'est dans son plan. Bethléem, Ephrata, de toi sortira celui qui dominera. Alléluia. C'est là que ça va se passer. C'est dans le timing de Dieu. Tu seras toujours dans le timing de Dieu lorsque tu vas être obéissant à Dieu. Même si les circonstances, même si ça paraît difficile, parce que Joseph et Marie l'ont pas eu facile. Ça a été difficile. Et ils ont obéi. Et cette femme était sur le point d'accoucher, tout ça. Ils ont fait tout ce chemin, tout ça. Ils sont arrivés, là, à Bethléem. Et en plus, il n'y a pas de place dans l'hôtellerie. Donc, c'est pas l'hôtel 5 étoiles. Jésus n'a pas choisi un hôtel 5 étoiles. Jésus n'a pas choisi. Si c'est vraiment le Messie, si c'est vraiment le roi des rois, si c'est vraiment le Seigneur des Seigneurs, pourquoi à la couche là? Et pourquoi ça va se passer dans une étable? Et pourquoi on va prendre son bébé et le mettre dans une mangeoire d'animaux? Tout semble être, si c'est vraiment le Messie, pourquoi ça arrive? Ils sont pourtant dans le timing de Dieu. Amen. Dieu va faire tout concourir à ce que lui a décidé qu'il arriverait. Et même si ça semble insensé pour l'homme, même si tout ne va pas comme on voudrait, même si on se pense des fois en dehors de la volonté de Dieu, « Ah, oh, je peux pas, je vraiment pas, là, mon entourage, tout va mal et tout ça, mon conjoint n'est pas chrétien, je suis pas dans le travail que me semble j'aimerais faire, ah, oh, il se passe des choses dans la famille et tout ça. » Et on se dit, « Oh, me semble pas dans la volonté de Dieu. » Quand tu es obéissant à la parole de Dieu, tu es toujours dans la volonté de Dieu. Tu es encore dans la volonté de Dieu. Tu es dans le timing de Dieu. Dieu est en mesure de faire tout concourir pour que ça accomplisse son plan. Même si ça semble que c'est pas ça, c'est ça. Tu seras toujours récompensé d'être obéissant à la foi. Alléluia. Alléluia. C'est pas ton conjoint, c'est pas tes parents, c'est pas ton entourage, c'est pas ton travail qui peut empêcher que tu sois dans le timing de Dieu. C'est pas l'hôtellerie, c'est pas la route, c'est pas le recensement qui va empêcher que Dieu va accomplir son plan à travers Joseph et Marie. Et que ça va arriver, même si ça semble négatif. Oh Seigneur, t'aurais pas pu la faire accoucher quand on était revenu à Nazareth? Ou t'aurais pas pu la faire accoucher avant d'aller à Bethléem? Pourquoi on s'est tapé tout ça? Toute cette route. Puis en plus d'arriver, il n'aurait pas pu avoir quelqu'un qui a cancellé sa réservation. Pourquoi t'as pas fait que quelqu'un cancellé sa réservation? Puis d'avoir la meilleure chambre de l'hôtellerie. Tu seras toujours dans le timing de Dieu, dans le plan de Dieu, en étant obéissant à la parole de Dieu, parce qu'il n'y a rien qui est hors contrôle de Dieu. Et s'il a permis que ça arrive, c'est comme ça que ça devait se passer. C'est là que l'enfant devait naître. C'est là que les choses devaient arriver. Et ils étaient sous la protection de Dieu. Alléluia! Parce que Jésus était là. Et Jésus pouvait rien y arriver. Et c'est à cet endroit, justement, que Dieu a tiré les bergers, que Dieu a tiré les mâches, avec les trésors et tout ça, puis ils ont dit, « Oh! » Ils ont loué
le nom du Seigneur. Ils ont vu les richesses, ce qu'ils ont entendu sur Jésus, c'était des merveilles. Et ça ravit leur cœur. Alléluia! À Bethléem, dans l'étang, dans la mangeoire d'animaux, ils ont entendu toutes ces merveilles. Parce qu'ils étaient dans le timing de Dieu, parce qu'il y avait un homme, qui était un homme de bien, avec sa femme aussi, Marie. Des personnes qui étaient prêtes d'obéir à ce que Dieu leur demandait, peu importe les temps et peu importe les circonstances. Jean Rulin est venu ici puis a partagé sur le naufrage de Paul et tout ça. Paul qui avertit les gens, ne partez pas, on va avoir des problèmes si on part. Je le sais. Ils ne l'ont pas écouté. Ils ont embarqué dans le bateau, ils sont partis. Ils étaient prisonniers, ils n'avaient pas le choix de suivre. Et à un moment donné, ils arrivent, puis c'est la tempête, puis c'est la catastrophe. Est-ce que Paul est dans le timing de Dieu? Ah oui, mais il ne devait pas prendre ce bateau-là. Il les a avertis. Il est pris par des contraintes autour de lui, des gens qui l'obligent à prendre ce bateau. Il aurait pu se dire, je suis plus dans la volonté de Dieu. Je suis sur le bateau que Dieu ne voudrait pas que je prenne. Non, Paul, tu es dans le timing de Dieu. Ça va servir à ma gloire. Parce que Dieu change les temps, les circonstances. Ne regarde pas autour de toi pour dire, gars, là j'ai perdu, je ne suis plus dans le plan de Dieu. Et c'est ça. Si tu obéis au Seigneur, tu es dans le plan de Dieu. Et même si des gens te contraignent à des choses, Dieu va faire concourir. Qu'est-ce qui est arrivé? Il leur a dit, maintenant, Dieu m'a révélé qu'il ne se perdrait personne sur le bateau. Si vous m'écoutez, là, naturellement, tout le monde est devenu très attentif et très obéissant. Et ils ont écouté Paul et personne ne s'est perdu. Le bateau s'est défait, ils se sont retrouvés sur une île, sur cette île. Oh, catastrophe, Paul! Qu'est-ce qu'il a fait? Il se fait mordre par une vipère. Bon, on le regarde, il va mourir. Oh, la vie n'est pas facile pour Paul. Pour moi, il n'est pas dans le timing de Dieu. S'il était vraiment de Dieu, après nos frères, je ne serais pas mort. Puis là, il la regarde, il dit, il va gonfler. Il n'a pas mangé, mais il va gonfler pareil. Il se passe rien. Paul, il balance la vipère dans la chose. Puis ensuite, il dit, hey, c'est comme un Dieu. Et là, on lui emmène les malades et tout ça. Et sur cette île, qu'est-ce qu'il y a? La gloire de Dieu. Il va passer environ 3 mois, la gloire de Dieu se manifeste. Les malades sont guéris, tout ça. Alléluia! Mais est-ce qu'il était dans le plan de Dieu ou non? Peu importe où il est, s'il est obéissant à la parole de Dieu, s'il est prêt à être fidèle à Dieu, à marcher sur les principes de Dieu, Dieu va faire concourir toutes choses, même si tu sembles que ta situation est négative dans ta vie, même si tu sembles que tu n'es pas trop dans le plan de Dieu, tu aimerais faire telle ou telle chose, mais Dieu dit, ne t'inquiète pas, c'est moi qui décide. C'est moi. Et je cherche tout ce que je veux, c'est des cœurs obéissants. Je veux juste des hommes et des femmes de bien. Je veux juste des hommes et des femmes qui craignent Dieu, qui sont prêts de faire ma volonté en tout temps et en toutes circonstances. Dieu est en contrôle de tout. Amen. Alléluia. Et on ne passe pas à côté de la volonté de Dieu lorsqu'on est prêt d'obéir, même si parfois c'est pas facile. Bethléem veut dire maison de pain. Alléluia. Savez-vous que vous êtes dans le recensement de Dieu? Parce que Dieu aussi fait un recensement. Il recense nos vies. Qui lui appartient, qui fait partie de sa maison ou qui est un étranger? Êtes-vous inscrit dans le livre de vie? Ça, c'est le livre de recensement du Seigneur. Si ton nom est écrit dans le livre de vie, alléluia! Tu as le droit à tous les avantages et les privilèges et l'héritage du Seigneur. Amen. Dieu s'occupe de toi. Tu fais partie de la maison, tu fais partie de Bethléem, la maison de pain, dans le pays de la louange. Alléluia. Tu peux participer maintenant à la gloire de Dieu. Tu fais partie de l'itinéraire de Dieu. Alléluia. Dieu a un plan pour toi. Et si tu es prêt à obéir, tu rentres dans ce plan, tout simplement. Dieu t'amène, Dieu te conduit. Même si des fois tu comprends pas tout, fais juste obéir. Au Seigneur, l'obéissance est toujours récompensée. Amen. À 8 jours, il va le présenter au temple. Pourquoi il le présente au temple à 8 jours? Pourquoi qu'à 8 jours, il le présente au temple?
depuis le début, on l'a mentionné, l'obéissance. Parce qu'à 8 jours, il devait le présenter. C'est écrit dans la loi. Il est obéissant en toutes choses. Il est obéissant à Dieu, il est obéissant à la... il est soumis aux autorités. Et en plus, il est obéissant à la loi et tout ça. Ce que Dieu, ce qui est écrit, il le fait. C'est ce qui est écrit. Selon la loi, il le présente au temple. À 8 jours. Pas 7 jours, pas 9 jours, à 8 jours. Et ensuite, Dieu va se révéler à lui, parce que c'est pas fini, dans un autre songe, Matthieu 2, 13, 14, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérod cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira où? Pourquoi? Parce que Dieu lui a demandé, par un songe, pendant qu'il dormait, un ange est apparu. Il dit, maintenant, prends l'enfant, va en Égypte. L'Égypte, c'est pas Israël. Il est plus dans son pays. Mais qu'est-ce que fait Joseph? Prends l'enfant, s'en va où? En Égypte. Joseph, c'est un homme de bien. C'est un homme qui obéit. Il comprend peut-être pas tout. Pourquoi l'Égypte? Pourquoi cet endroit-là et tout ça? Peu importe. De toute façon, si Dieu me l'a demandé, je le fais. Et l'Égypte symbolise quoi? Le monde. Mentalité du siècle présent. Et vous savez que pour Joseph et Marie, c'était pas leur lieu de résidence. C'était pas leur lieu permanent. C'était juste un passage. Ils étaient comme voyageurs et étrangers en Égypte. Comprenez-vous? Ils étaient comme voyageurs étrangers en Égypte. Vous savez, on a accepté Jésus, on fait partie de Bethléem, la maison de Dieu. Alléluia. Mais on va sortir. Et on va se retrouver où? Dans le monde! En Égypte! Parce que la volonté de Dieu, c'est pas qu'on sortir du monde. Je te prie pas de les ôter du monde. Je peux pas de les enlever du monde. Mais je te prie de les préserver du mal. Parce qu'ils sont la lumière du monde. Ils sont le sel de la terre. C'est ce que nous sommes. Nous pouvons pas aller sur une montagne et attendre le retour du Seigneur et tout ça. On se réunit ensemble. Mais à un moment donné, on va en Égypte. Vous vivez en Égypte. Vous travaillez parmi les gens de ce monde et tout ça. Mais Dieu dit, je te prie de les préserver du mal. Joseph et Marie ont continué d'obéir au Seigneur en Égypte, même s'ils n'étaient pas nécessairement en Israël et tout ça. Ils étaient prêts. Hérode était furieux. Hérode voulait détruire l'enfant. Et l'ennemi veut détruire les enfants de Dieu. Il veut nous détruire. Et ils ont fui comme ça. Et nous aussi, on fuit dans le Seigneur. Amen. On fuit dans sa présence. Alléluia. Et vous savez, Jésus a dit, je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le... Mais prenez courage et... Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. On vit dans le monde. On a des tribulations dans le monde. Il y a des choses dans le monde, mais celui qui est en nous, celui qui a pris naissance en nous, celui qui est venu dans nos vies, qui fait partie de la mangeoire de nos vies, celui-là qui est en nous maintenant, alléluia, nous donne la victoire. Sois vainqueur, alléluia, sois vainqueur. Ne te laisse pas dominer par le monde. Ne te laisse pas dominer par la mentalité du siècle présent. Ne te laisse pas dominer par les pensées du monde. On peut vivre dans ce monde sans agir comme le monde. On peut vivre dans ce monde sans agir comme le monde. Et c'est ce que Dieu nous appelle, enfants de Dieu, de pouvoir être en mesure de comprendre qu'on est des voyageurs, des étrangers sur cette terre et que notre cité est dans les lieux célestes. Amen? Alléluia! Ils savent qu'ils ne resteront pas en Égypte tout le temps jusqu'à ce que je te parle. Ils savent que c'est pour un temps. Et nous, on sait qu'on vit dans ce monde, mais c'est pour un temps aussi. Et on doit être des ambassadeurs de Christ, des représentants de Christ. C'est beau, la naissance d'un bébé. Hein? C'est beau. Quand mes enfants sont nés, moi, c'est beau. Ben, je ne veux pas dire ça. Je ne trouvais pas Joe tellement beau. Mais ça ne fait rien. On me dit, comment il fait pour ne pas trouver son enfant beau? Ben, je suis une exception. Je regardais mon enfant et j'ai dit, il a donc bien une grosse tête. Mais ça fait rien, je l'aimais pareil. Je suis fier de le présenter, tout ça. C'est notre enfant. Sa tête est redevenue correcte, vous l'avez vu. Il est revenu correct. Mais il est né comme ça. Mais on est fiers, on est contents, puis on veut que les gens viennent, puis on se dit, oh, c'est celui-là, là, il est là, là. Regarde, il y a mes yeux, il y a mon menton, il y a ma tête. Il y a tout ça. On est fiers. Je ne l'aurais pas dit moi-même, mais vous le faites. Et comme son frère, il a une grosse tête. On est fiers. Et quand Jésus naît dans nos cœurs, amen, on est fiers. On est fiers d'être enfants de Dieu. On est fiers. On peut pas cacher ça. On cache pas nos enfants. On cache pas non plus le fait qu'on est devenu enfant de Dieu et tout ça. Et ça va susciter des troubles. Savez-vous que Jésus va susciter pas juste de la joie, mais du trouble. Et Joseph et Marie ont été avertis, hein. Parce que quand ils ont été au temple, tout ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs et à devenir un signe qui va provoquer la contradiction. Et Marie, toi, une épée va te transpercer l'âme. Oh, c'est intéressant! Notre fils, Jésus! Oui, il va provoquer la contradiction. Il va amener la chute, le relèvement de plusieurs. Et ensuite, il va t'amener une certaine douleur aussi. C'est la réalité de Jésus. Si vous ne l'avez pas vécu encore, c'est une réalité. Le nom de Jésus suscite la controverse. C'est pas juste le petit bébé dans le berceau. Oh, il est beau, il est fin, il est gentil. C'est qu'à un moment donné, Joseph et Marie, ça va avoir de la souffrance à cause de Jésus, à cause de ce qu'il est venu faire et tout ça. Et c'est la même chose dans nos vies. Dieu ne nous le cache pas. Ça va provoquer la controverse. Ça va susciter des réactions. Il y a des gens qui ne voudront pas du tout vous parler de Jésus. Que même si vous trouvez ça beau, bien, eux autres, c'est beau. C'est facile de s'identifier à Jésus lorsque tout va bien. Hein? Les disciples étaient très, très contents de s'identifier à Jésus. Ils guérissaient les malades. Ils chassaient les démons. Ils enseignaient, ils multipliaient les pains. Tout ça. On le suivait. Oh, j'étais un disciple de Jésus. J'étais un disciple de Jésus. C'est moi, là, le disciple de Jésus, il y a des apôtres, là, je le suis, là. Mais oui, il guérit, il délivre, il sauve. Oh, c'est merveilleux, il nourrit. Il multiplie, même il reste à terre, on a pêché, puis on a trouvé de l'argent dans la bouche des poissons, tout ça. On est content. Mais à Gethsémané, ça a pu marcher. Il était plus fier. Oh, Jésus? T'es un disciple de Jésus? Quoi? J'ai pas entendu. T'es un disciple de Jésus? Qui? C'est qui, ça? Jésus. Ben oui, on t'a vu avec. Non, 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 je connais pas Jésus. Je connais, non, non, non. Non, je vous le jure. Je vous le jure. Je prête serment. Ici, je suis pas un disciple de Jésus. Il était plus fier. Pourquoi? Parce que c'était le temps de l'épreuve. C'était le temps des tribulations. C'était le temps de la haine. Et là, c'est plus pareil. Mais Joseph, c'est un homme de bien. Joseph, c'est un homme qui est prêt à servir le Seigneur, d'aller partout et de faire la volonté de Dieu. Allez-vous être aussi fiers de Jésus lorsqu'on va nous demander d'enlever la croix sur le centre? Parce que c'est un signe religieux. Allez-vous être encore fiers de Jésus? Si ces choses-là arrivent. Parce que vous savez, ça peut arriver. Que dans quelques temps, on nous dise, les églises n'ont plus le droit. Plus personne n'a le droit d'avoir un signe religieux. Fait que autant que dans ton cou, que sur le bâtiment, et s'ils viennent nous trouver pour nous dire enlever la croix qui est sur le bâtiment, c'est quoi qu'on fait? On peut vivre Jésus à l'intérieur? Peut-être qu'il y a des gens qui voudront plus venir ici, si on garde la croix. Parce qu'on se dit, regarde, là, vous vous amanchez, avoir des tribulations, des difficultés, tout ça. Quand ça va arriver, ces choses-là, allez-vous être encore fiers de Jésus? Parce que ça commence, là. Tu n'as plus le droit de dire Noël dans des pouponnières et tout ça, dans des garderies. Tu n'as plus le droit de dire le mot Noël. C'est même plus Jésus. C'est commencé. C'est commencé. Il ne faut pas être aveugle, enfant de Dieu. Ça nous rejoint. Bientôt, ça va arriver. Plus vite qu'on pense. que ces choses vont nous être demandées de renoncer pour être justement laïque et pas s'identifier, tout ça. Mais est-ce qu'on va être prêt d'être aussi fier de Jésus? De dire, regarde, Jésus, c'est ma vie. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Si ça me coûte la vie, c'est pas grave, la mort m'est un gain. Je suis pas perdant d'être obéissant. Je serai jamais perdant d'être obéissant, même si la mort est au bout. Parce que la mort m'est un gain. Êtes-vous prêt à perdre des amis parfois, à avoir des gens qui s'éloignent de vous et tout ça, juste parce que vous voulez demeurer fidèle au Seigneur? Et c'est pas fini, parce qu'il y a eu un autre songe, parce que Dieu y a parlé par des songes, puis l'ange qui lui a dit maintenant, retourne en Israël et tout ça, dans le territoire de la Galilée, et vint demeurer dans une ville de Nazareth, afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Donc, un autre sens, quitte l'Égypte, maintenant va à Nazareth, et il va. Pourquoi? Amen! Gloire à Dieu! Tout simplement par obéissance. Maintenant, c'est le temps de retourner en Israël, il va aller rester à Nazareth. Et il va vivre à Nazareth. Nazareth veut dire verdoyant. Et c'est là que Jésus va grandir en grâce, en sagesse et en stature devant Dieu et devant les hommes. Alléluia! Parce que Jésus n'est pas venu dans ce monde pour rester un bébé. Jésus est venu dans ce monde pour grandir. En sagesse, en stature et en force et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia! Et nous aussi, Dieu nous dirige à Nazareth. Nous aussi, Dieu nous dirige à être verdoyants. Nous aussi, Dieu nous dirige à grandir en stature, en sagesse, en grâce. À la stature parfaite de Christ, on ne peut pas rester des enfants. C'est beau un bébé, c'est beau un enfant. Mais lorsqu'il reste enfant, il est déficient. Un enfant qui grandit, tout ça, qui devient adulte, il reste, qui est toujours enfant, c'est déficient. Parce que tu ne peux pas rester un enfant. Et tu ne peux pas rester un enfant Christ. À un moment donné, faut que tu obéisses au Seigneur et grandisses dans le Seigneur. Amen. Des fois, on dit, oh, moi, au début de la vie chrétienne, tout me tombait du ciel. C'était merveilleux, j'étais béni, le Seigneur me bénissait. Oh, c'était agréable, je demandais quelque chose, ça arrivait. Dieu pourvoyait tous mes besoins et tout ça. Puis là, c'est rendu plus difficile, c'est rendu plus ardu. Je sais pas ce qui se passe. Tu sais pas ce qui se passe? Je vais te le dire. Tu veux que tu grandisses? Tu ne veux pas toujours rester un enfant? T'attends à tout, tu vas tomber dessus comme ça? Que les gens vont tout faire pour toi? Que les gens vont t'assister, vont s'occuper de toi, et c'est ça? À un moment donné, Dieu veut que tu grandisses. Et que tu matures. Et que tu deviennes un outil d'édification. Et que tu puisses aller vers les autres. Et que tu puisses mettre au service des autres le don que tu as reçu. Que tu deviennes quelqu'un qui fasse des disciples. Quelqu'un qui est en mesure de se prendre en main dans le Seigneur. C'est ça la différence de ce qu'au début, puis de maintenant. C'est tout simplement que Dieu te traite comme un père traite son enfant. Maintenant, faut que tu grandisses. Faut que tu progresses. Faut que tu agisses par la foi. Faut que tu sois prêt d'obéir en toutes choses. Tu dois trouver ta place. Tu dois prendre ta place. Tu dois être là dans le corps de Christ et être prêt de fonctionner. Alléluia. On le fait pour nos enfants, on trouve ça correct. On trouve ça correct. Notre enfant, il apprend, on le mange, on le fait nourrir, on le nourrit, on le lave, on le couche, puis tout ça, puis on le berce. Là, il grandit, puis là, il met la cuillère dans la main. Comment ça? Parfait, c'est correct. Il apprend à manger. C'est correct. Là, il est dans le salon, là, on va essayer de le faire tenir ses pieds, tout ça. Oh, il tombe, on va le relever, tout ça. Il va tenir sur ses pieds. Parfait. Là, à un moment donné, il grandit. « Hey, écoute, je vais te montrer comment faire ton lit. Je vais te montrer aussi comment ranger tes jouets. » Puis là, tu arrives, là, tu vas à l'école, parce qu'il faut que tu apprennes aussi. « Ah, je ne veux pas y aller. » Mais écoute, tu n'as pas le choix, il faut que tu y ailles à un moment donné. Tu ne peux pas rester un enfant. Tu ne peux pas rester toujours un enfant. Et s'attendre que tout va te tomber comme ça, et que tu n'auras pas d'effort à faire, et tu n'auras pas de discipliner tout ça. Dieu t'appelle à vivre Nazareth. Dieu t'appelle à être verdoyant, à grandir en stature, comme Jésus. Comme Jésus a grandi, Joseph l'a enseigné selon la loi. C'est pas pour rien qu'il a choisi Joseph. Ça prenait un père adoptif qui l'enseigne selon les principes de la loi. Qui lui montre un métier, charpentier comme son père. Qui l'entoure d'amour, mais il l'entoure aussi d'une certaine discipline. Il était soumis à ses parents. Il était soumis à Joseph et Marie. Et c'est pas pour rien qu'il a choisi Joseph et Marie, parce qu'il savait qu'elle était instruite selon la parole de Dieu à travers Joseph et Marie. Donc, il grandissait en grâce, en stature et en sagesse. Et c'est ce que Dieu nous appelle aussi, enfants de Dieu. On ne peut pas rester juste des enfants. À un moment donné, on doit comprendre qu'on est des enfants de Dieu et que si nous, on traite nos enfants comme ça, pourquoi le Père ne nous traiterait pas comme ça non plus pour la vie éternelle? Est-ce que vous avez laissé vos enfants livrés à vous-même? Est-ce que vous l'avez interdit des choses des fois? Est-ce que vous avez dit, gars, minuit, c'est un peu tard, à 12 ans? Peut-être que 10 heures, ce serait bien. Ah, je veux pas, je veux pas. Fais ce que tu veux. Non. Vous étiez sage. Vous avez dit, je vais y mettre certaines disciplines. Pourquoi vous l'acceptez humainement puis spirituellement, vous l'acceptez plus? Pourquoi le Père ne pourrait pas nous traiter comme de ses enfants et nous dire, il sait qu'est-ce qui est le mieux pour nous? Puis des fois, il va nous interdire des choses. Et des fois, il va nous dire, range-toi donc. Lave-toi donc. Apprends à manger. Voyez-vous? Et c'est vous qui devriez être des maîtres. Et à un moment donné, c'est ça, dans le Seigneur. C'est pas que Dieu a changé. C'est juste qu'il nous aime. Puis il dit, je veux que tu atteignes la stature parfaite de Christ. Je veux que tu grandisses en moi. Alléluia! Nazareth. Nazareth. Certains ont associé Nazareth au vœu de Nazaria. Parce qu'ils appelaient dans l'Ancien Testament ceux qui avaient fait le vœu de Nazaria. Des Nazariens, du mont Nazaire. Donc, on a fait un peu une association avec le vœu de Nazaria qui veut dire consacré, voué. Des personnes qui se vouaient, qui se consacraient au Seigneur. Pour un temps ou pour tout le temps. Ils se donnaient. Il y en a qui ont été consacrés par d'autres. Samuel, Samson, toute leur vie. Samuel est devenu un grand prophète. Samson est devenu un homme qui était plein de force. Il l'a perdu à un moment donné, mais quand même. Il l'a retrouvé à la fin. Mais c'était des hommes qui avaient le vœu de Nazaria, des Nazériens, des personnes qui étaient consacrées à Dieu et que Dieu a fait reposer sur eux l'onction. Ces hommes ne devaient pas toucher aux produits de l'alcool et tout ça, de la boisson, parce qu'ils se disaient, on n'a pas besoin de ça pour être heureux. On peut être ivre du Seigneur. Amen. Ils devaient se laisser pousser les cheveux. Pourquoi? Parce que c'était une preuve de vitalité pour l'âme et tout ça. Et lorsqu'on coupait les cheveux, c'était une preuve de désolation et de deuil. Mais les cheveux, c'était la vitalité et la force. Et c'est un signe extérieur d'une consécration intérieure. Et les gens voyaient, « Oh, il a fait vœu de Nazaria, hein? Gardez les cheveux! » Et eux, ça leur imposait de le respecter, ce vœu. Parce qu'il y avait un témoignage extérieur. Les gens voyaient extérieurement qu'il y avait un vœu qui avait été fait, une consécration. Et c'est une preuve de soumission aussi. La femme, les cheveux longs, c'est quoi? C'est comme un voile. Il dit, c'est une preuve de soumission. Donc, ça, tout ça faisait partie du vœu de Nazaria. Tu ne touches pas un mort. Tu ne touches pas un mort. Afin de ne pas être impur. Ne touchez pas ce qui est impur. Séparez-vous, dit l'Éternel. On côtoie les morts, mais on ne touche pas aux morts. On ne se conforme pas aux morts. Et Jésus était Nazaréen sous tous ses sens. Il n'est pas tombé dans l'ivresse. C'est un homme qui n'avait pas de compromis avec la parole de Dieu. C'était Dieu qui marchait comme un simple homme ici, mais qui ne touchait pas ce qui était impur. Et Dieu a agi. Il dit, je fais toujours ce qui est agréable au Père. Amen. Alléluia. Oh, à 12 ans, déjà, il savait quelle était sa mission. À 12 ans, il était dans le temple. À 12 ans, il pouvait dire, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Mais c'était pas le temps encore, donc il a suivi Marie et Joseph. Et il a continué d'être obéissant et tout ça. Amen. On est rendu ce matin à la conclusion qui nous dit, Est-ce qu'on est prêt d'être obéissant à toutes choses? Est-ce qu'on est prêt d'être des hommes et des femmes de bien? Il dit, vous savez, à un moment donné dans la vie chrétienne, Dieu nous amène à une réalité. Tu as accepté Jésus, c'est merveilleux, tu fais partie de Bethléem, si tu veux, de la maison de pain, tout ça. Tu vis dans le monde aussi, mais tu es séparé du mal. Et tu grandis dans le Seigneur. Et Dieu, à un moment donné, t'amène à une réalité. Le vœu de Nazariat, à moins d'exception, c'est un choix personnel. Il choisissait de se consacrer. Et il y a une image pour nous ce matin. Est-ce qu'on est prêt de se consacrer au Seigneur? On a accepté Christ, mais ça ne veut pas dire qu'on est consacré. Des fois, on préfère que Jésus reste comme un bébé. Un bébé dans nos vies, un bébé, c'est inoffensif. Un bébé, ça ne dérange pas. Un bébé, ça ne nous dit pas quoi faire. On lui dit quoi faire. Et des fois, on préférait que Jésus reste un bébé dans nos vies. Parce que nos choix sont faits comment? Sont faits simplement dans le sens que Dieu les approuve. Des fois, on fait des choix, juste on dit Dieu approuve-les. On ne demande pas c'est quoi les choix du Seigneur. On demande au Seigneur de bénir nos choix. Et de dire que je planifie mes activités, je planifie mes vacances, je planifie ma retraite, je planifie telle chose, je planifie. Je n'ai pas consulté l'agenda de Dieu, ce n'est pas nécessaire, je veux juste que Dieu bénisse ce que moi j'ai décidé. Je veux qu'il bénisse. On fait des choix sur nos intérêts, sur nos désirs, sur nos pensées, sur le désir des fois de s'enrichir ou quoi que ce soit. Bon, Seigneur, bénis, bénis, tu es Dieu de trésor, tu ouvres les cieux. Mais est-ce qu'on a consulté l'agenda de Dieu? C'est quoi Dieu voulait? C'est ça la consécration. C'est que nos choix sont faits selon la parole de Dieu. Ils ne sont pas faits selon nos désirs. Ils sont faits selon la parole de Dieu. Et c'est pour ça des fois qu'on ne va pas la lire puis qu'on ne va pas plonger nos regards. Parce que si on la lit et on plonge nos regards, on risque que le Seigneur nous dise de renoncer à certaines choses. Et compte tenu qu'on ne veut pas qu'il nous dise de renoncer à certaines choses, on ne la lit pas. Est-ce que vous êtes prêts à prendre des bons choix ce matin? C'est ça, cette année, soit vainqueur. Joseph était vainqueur. Joseph était un vainqueur dans son temps. Il a fait les bons choix. Et Dieu a béni ce foyer. Hey, pensez-y, personne dans ce monde a pu vivre ce que Joseph et Marie ont vécu. Ils ont vu Jésus grandir, ils l'ont vu bébé, ils l'ont vu enfant, ils l'ont vu courir, ils l'ont vu adolescent, ils l'ont vu en train de maturer, tout ça. Ils ont assisté à tout le développement de Jésus. Et ils ont contribué au développement de Jésus. N'est-ce pas une bénédiction? Parce qu'il est un homme et une femme de bien. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ils étaient sous la protection de Dieu. Il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant agréable à Dieu. On le sait, c'est quoi la volonté de Dieu. On le sait. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant agréable à Dieu, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Tout ce que Dieu demande. Jésus n'a pas demandé une famille royale. Il n'est pas né dans la richesse. Il n'a pas choisi un hôtel 5 étoiles. Il n'a pas choisi la plus grosse ville. C'est pas ça que Dieu demande. Dieu demande un cœur obéissant. Tout ce que Dieu demande, c'est un cœur obéissant. Que tu sois né riche ou pas, que tu sois né dans de certaines difficultés ou orphelin ou peu importe. Ça n'y est pas. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu sois obéissant. C'est l'obéissance de la foi. Tout ça qu'il demande. Puis il va t'aimer toutes les choses. Ta vie va être dans. Tu vas être dans le timing de Dieu, comme on dit. Alléluia. Oui, mais pour moi, il est trop tard. Je suis plus jeune. Je parle aux ceux qui sont plus jeunes. On est pas mal pas jeunes. Trop tard pour me consacrer, faire l'œuvre de Dieu. Pensez pas ça, hein? Il n'est jamais trop tard. Peu importe l'âge que tu as. Jésus a fait un ministère de 3 ans. 3 ans suffit. 3 ans suffit pour que tous les livres de tout le monde entier, de toutes les bibliothèques, ne puissent pas contenir tout ce que Jésus a fait en détail. En 3 ans. Il ne dit pas, il est trop tard. Je suis à ma retraite. Je peux plus. Ce n'est pas nécessaire de me consacrer. Il n'est jamais trop tard. Joseph, à un moment donné, est mort. On ne sait pas ce qui s'est passé. On n'entend plus parler. À un moment donné, il est là, à un moment donné, il n'est plus là. À un moment donné, il est là, à un moment donné, il n'est plus là. Mais peu importe le nombre d'années qu'il a vécu, le temps qu'il a vécu, il l'a vécu consacré. Qu'il te reste une journée à vivre un matin, ou une semaine, ou 10 ans, vaut mieux la vivre consacrée. Vaut mieux être consacré. Être des enfants obéissants au Seigneur en toutes choses. Et c'est ce que le Seigneur nous dit en Jean. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, vous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Et qu'à son avènement, on ne soit pas loin. Il parle à des chrétiens. Il dit, lors de l'avènement du Seigneur, on peut être loin ou proche. On peut être demeuré en lui ou pas. Et c'est à nous qu'il revient le choix. Et être vainqueur, c'est ça, c'est de faire les bons choix. Sois vainqueur. Joseph a fait les bons choix. Le nombre d'années, peu importe, il l'a vécu dans le temps de Dieu, dans ce que Dieu avait pour lui. Et il fait un outil entre les mains du Seigneur pour l'œuvre de Christ. Pour que ces 3 ans-là soient selon ce que Christ voulait. Ça y prenait un foyer comme Joseph. Ça y prenait Marie-Joseph. Pas n'importe qui. Et Dieu ne se trompe jamais lorsqu'il choisit. Et Dieu ne se trompe pas lorsqu'il nous choisit ce matin. Dieu t'a choisi. Amen. Tu fais partie de son recensement. Alléluia. Il veut te conduire. Oui, maison de Dieu, Bethléem, l'Égypte, tu vas te retrouver en Égypte. Mais tu ne te laisseras pas influencer par l'Égypte. Parce que tu grandis à Nazareth. Tu grandis à Nazareth. Tu es prêt à grandir. Tu acceptes ça. Tu acceptes de te soumettre au Seigneur. Tu acceptes de grandir dans la foi. Parce que tu ne veux pas rester un enfant. Tu veux être obéissant. C'est ça être vainqueur. C'est ça être vainqueur dans le Seigneur. Alléluia. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la stature parfaite de Christ. N'étant plus des enfants. Flottant et apportant tout vent de doctrine. Oh, je viens d'entendre. Oh, je viens d'entendre telle chose. J'ai vu ça sur Facebook. Emportant tout vent de doctrine. Par la tromperie des hommes. Par la ruse, par le moyen de séduction, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. En celui qui est le chef, Christ. Alléluia. Dieu ne s'est pas trompé en nous choisissant. Ne nous trompons pas en faisant les mauvais choix. Ne nous trompons pas en faisant les mauvais choix. Parce que Dieu nous a choisis. Amen. Et on va s'approcher de Dieu ce matin, parce que le fait de s'approcher de Dieu, écoutez bien ceci, le fait de s'approcher de Dieu et de lui montrer notre désir de lui obéir en toutes choses, malgré nos faiblesses et malgré nos manquements et malgré bien des choses, permet à Dieu de libérer une grâce sur nous pour qu'on lui obéisse. Une grande grâce reposait sur Joseph et Marie. Ils ont fait toutes ces choses parce que Jésus était là. Et lorsqu'on s'approche de Dieu, je le répète, avec le désir de lui obéir en toutes choses, qu'on lui manifeste ce désir ce matin, peu importe connaissant qu'on a des faiblesses et tout ça, ouvre la porte à Dieu de répandre sa grâce pour avoir la force de lui obéir. Et qu'on puisse quitter ce matin avec ce désir de faire toutes choses et s'approcher tout simplement de Dieu. Peu importe ton âge, peu importe tout ce que tu as vécu jusqu'à date, soyons des hommes et des femmes de bien. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, Éternel, il n'y a rien qui est du hasard avec toi. Et tu as choisi Joseph afin d'accomplir ta volonté. Et tu nous as choisis aussi afin d'accomplir ta volonté. Parce que ton plan, on veut être dans ton itinéraire. On veut être dans ton plan. On veut marcher dans tes voies. On veut obéir en toutes choses. Même si parfois c'est pas facile. Mais Seigneur, on veut s'approcher de toi ce matin. Et te dire, Seigneur, il y a la vraie vie excitante, n'est possible qu'en demeurant en toi. Seigneur, on ne veut pas être loin de toi, on veut être proche de toi. On ne veut pas marcher loin de toi, mais on veut marcher dans tes voies. On veut être rempli de ton esprit. On veut que repose sur nous l'onction, une paix dans nos cœurs, qu'on fait justement ce que toi, Seigneur, tu nous as demandé. Alléluia. Et tu connais nos faiblesses, et tu connais nos manquements, et tu connais que parfois on tombe et on tombe. Mais Seigneur, tu veux ce matin répandre sur nous une grâce spéciale afin qu'on puisse obéir à ta volonté. Tout ce que tu nous demandes ce matin, es-tu prêt à t'approcher de moi et à te consacrer et à dire, oui, Seigneur, je veux être obéissant en toutes choses. C'est tout ce que tu demandes. Tu demandes un cœur obéissant, prêt à faire ta volonté.